France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Brésil, la musique et le monde. 36e chapitre, les années 1970. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous écoutez sur les ondes de France Musique, de la radio-télévision suisse, de la radio-télévision belge et de Radio-Canada. On sait combien le rire et la dérision sont souvent le dernier recours et les seules armes pour s'opposer à une dictature. En 1970, alors que l'aile la plus dure des militaires gouverne le pays, l'écrivain le plus lu au Brésil avec Jorge Amado, Érico Veríssimo, publie un de ses grands livres, Incidente em Antares, Incident à Antares, un roman fantastique qui se passe dans une petite ville du Rio Grande do Sul, où 7 personnes qui viennent de mourir ne peuvent être enterrées à cause de la grève des fossoyeurs. Ils sortent alors de leur cercueil et commencent à déambuler dans la ville en disant leurs 4 vérités à tous, en particulier aux notables, et en critiquant à loisir la société sans crainte de représailles. Le message est largement passé, d'autant que le livre a été un des rares à passer la censure. Est-ce que le grand succès économique du pays aurait favorisé ce relâchement de la surveillance? Il faut dire qu'en début d'année, la bourse a battu des records. Le grand succès de la chanson cette année-là tombe à pic. Antônio Carlos et Jo Cafi avaient formé un duo à Bahia en 1968. 3 ans plus tard, ils s'installent à Rio. Et ils se retrouvent au sommet des meilleures ventes de disques avec leur chanson « Você abusou, tirou partido de mim ». Tu as abusé, tu m'as berné, tu as profité de moi. Une chanson qui devient un succès mondial inattendu, qui a même inspiré Michel Fugain en France. Tout au long de la chanson, le tambour friction qu'on appelle la cuica émet des sons qui ressemblent à un éclat de rire.
Você abusou, tirou partido de mim, abusou. Cafona sofrer dor que eu já nem sei se é meninice ou cafonice o meu amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão. Sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão.
En 1971, un film sort au Brésil qui passe lui aussi la censure. Il s'agit de Crônica de uma Casa Assassinada, chronique d'une maison assassinée. Comme l'explique le professeur José Augusto Caliu de São Paulo, qui allait bientôt travailler à l'Institut du cinéma, si les militaires surveillaient de près les chansons, ils s'intéressaient très peu aux productions cinématographiques. Le film de Paolo César Saraceni compte la ruine d'une famille aristocratique dans leur demeure du Minas Gerais et tout se passe dans cette maison où règne une atmosphère étouffante et délétère. L'agonie d'une femme atteinte d'un cancer contamine tous les habitants déjà passablement névrosés et transforme la maison en un cimetière de morts vivants, décidément. Mais Tom Jobim a composé pour ce film une musique merveilleuse et tellement lumineuse que le spectateur prend heureusement quelques distances avec la déchéance à laquelle il assiste. 2 ans plus tard, il l'arrange avec son partenaire de toujours Klaus Ogerman pour en faire une suite de concerts pour chant et orchestre symphonique.
Ten pena de mim, ouve só meus ais. Eu não posso mais. Quando o dia está bonito, logo a gente se distrai. Mas que triste de repente, quando o véu da noite cai. Aqui fora está tão frio e lá dentro está também. Não há tempo mais vazio do que longe do meu.
Chora coração, on pleure mon cœur, extrait de la musique du film La maison assassinée, musique composée par Antônio Carlos Jobim, Milton Nascimento avec l'orchestre symphonique de São Paulo sous la direction de Roberto Minchuk. Tom Jobim vit alors entre les États-Unis et le Brésil. Quant à Gilberto Gil et Caetano Veloso, ils sont encore en exil à Londres. Plusieurs amis brésiliens de passage leur rendent visite. Caetano raconte dans ses mémoires que personne ne l'a autant ému que Roberto Carlos, surtout quand il a chanté en s'accompagnant à la guitare. Caetano a fondu en larmes. Roberto, ému lui-même, compose à son retour une chanson en son hommage. « Debaixo dos caracóis de seus cabelos »« Sous les boucles de ses cheveux ». Il faut préciser que quand Roberto était à Londres, Caetano avait retrouvé sa belle chevelure frisée que les militaires avaient rasée dans la prison de Rio. Sous les boucles de tes cheveux, il y a toute une histoire qu'il faut raconter. Un jour tu reviendras. Tes pieds retrouveront le sable blanc. Tu plongeras ta chevelure dans la mer et je te verrai sourire à nouveau.
Seus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar. E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Distante, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, soluço e a vontade de ficar mais instante. As luzes e o colorido que você vê agora nas ruas por onde anda. Na casa onde mora, você olha tudo e nada lhe faz ficar contente. Você só deseja agora voltar pra sua gente. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar, um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus
L'aria pour violoncelle et orchestre composée par José Siqueira, l'année où Roberto Carlos chantait l'exil de Caetano Veloso à Londres. Fabio Presgrave, violoncelle, la Camerata Fucuda, dirigée par Sergio Antunes. Peu d'exilés ont tenté de revenir clandestinement au Brésil. Certains y sont parvenus, comme l'écrivain Antonio Calado, qui avant son exil avait fait de la prison par deux fois. Dans l'un de ses romans les plus connus, « Sempre Viva », il raconte de manière assez autobiographique le retour clandestin au Brésil de Quinho, exilé à Londres depuis 10 ans. Quinho entre par la frontière bolivienne, dans la région du Mato Grosso. Il revient pour venger la mort de sa fiancée, enlevés par la sécurité d'État dans un cinéma alors que tous deux assistaient à une projection de l'année dernière à Marienbad dans le Rennais. Dès qu'il franchit la frontière, la superbe région marécageuse du Pantanal qu'il traverse lui rappelle la guerre du Paraguay qui s'y est déroulée au XIXe siècle. Quinho est comme envoûté par la sensualité du Brésil, la nature, le chant des oiseaux et surtout le chant du sabiá qui, depuis la chanson de Chico Buarque, est devenu le chant de l'exil. Quinho est recueilli par son oncle et une ancienne amie qui vit avec sa fillette, Era. Le crépuscule était en sang sur l'immense prairie du Pantanal qui recevait Quinho 10 ans après. « Il y a des jours, lui disait son oncle, où j'aime me perdre dans le Pantanal. Là, j'oublie tout et je m'oublie moi-même. J'observe, à l'aide de vieilles jumelles de théâtre, une oiselle qui donne à manger à ses petits. C'est avec ces jumelles, tout jeunes encore, que j'ai entendu un soir notre soprano Bidou Sayão chanter la Rosine du Barbier de Séville au théâtre municipal. Quinho, lui, n'avait Dieu que pour Verturino, l'oiseau de la petite Era, un sabia orangé, exubérant, qui chantait à tue-tête. Seul un sabia s'est lancé ses trilles et ses roulades dans la palmeraie abstraite des nostalgies de l'exilé, du réfugié et du proscrit. Canticum Naturale de Edinu Krieger, Maria Lucia Godoy, soprano, l'orchestre symphonique de la radio Mekki, direction Eleazar Di Carvalho. Changement d'atmosphère à présent, puisque nous voici entre le Brésil et les États-Unis. Car comme Tom Jobim, le compositeur Camargo Guarnieri vit dans les années 70 entre São Paulo, qui n'a jamais perdu son aspect frondeur durant la dictature, et Chicago, New York et le Wisconsin, où ses œuvres sont jouées. En 1971, il reçoit une commande de l'Orchestre philharmonique de sa ville natale pour l'ouverture de la saison symphonique au mois d'avril. Une abertura festiva, une ouverture festive qui a des allures de fanfare, défilant dans une ville en fête. L'ouverture festive de Camargo Guarnieri, l'orchestre symphonique de São Paulo dirigé par John Nächling. On sait combien Camargo Guarnieri a été émerveillé dans sa jeunesse par la musique et la culture du Nord-Est au Brésil. Cette culture connaît depuis quelque temps un véritable renouveau grâce à l'écrivain Ariano Suassuna, né en 1927 dans l'état du Paraíba et qui a créé en 1970 un mouvement culturel destiné à préserver le patrimoine régional tout en favorisant un art contemporain. Il l'a intitulé le mouvement Armorião, du nom des armoiries régionales qui ornent souvent les livres populaires. Son père, gouverneur du Paraíba, avait été assassiné durant la révolution de 1930 et la famille s'était réfugiée dans la petite ville de Taperoa. Là, un de ses oncles l'emmène un jour voir un spectacle de marionnettes sur la place du marché. Il est fasciné par le personnage du noir Benedito, une sorte de Till l'espiègle brésilien qui berne toujours les policiers qu'il a aux trousses. Tout cela dans un univers fantastique et magique. Suassuna n'oubliera jamais cet émerveillement né au milieu du plus grand dénuement, au milieu de ce peuple poète qui aime les joutes improvisées par les musiciens, dans le moraon par exemple. On dit d'ailleurs que le mot moraon vient du terme qui désigne les pieux qui ferment l'enclos des animaux. En effet, les chanteurs ne doivent jamais sortir du cercle poétique en alternant les vers et en se répondant l'un à l'autre sans que jamais le rythme ne fléchisse. Ils ne se retrouvent ensemble que durant le refrain qui est toujours le même. En 1970, l'ensemble instrumental Quinteto Violado a remis à la mode ces défis poétiques en les adaptant au style de l'époque.
Vou contar o resultado. Isso é que é morão voltado. Isso é que é voltar morão. Atrapalhado, isso é que é morão voltado, isso é que é voltar morão.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
Havia cantado, isso é que é morão voltado, isso é que é voltar morão.
À l'université de Recife, Ariano Suassuna, royaliste, fasciné par les armoiries aristocratiques, fonde une troupe de théâtre étudiant. Il devient avocat et il commence à écrire des pièces inspirées par la littérature populaire de Cordeau, ces textes illustrés par des gravures sur bois qu'on vendait sur les places, suspendues à des cordelettes. Des textes à la fois réalistes et fantastiques, issus des anciens romanceros qui remontent souvent au XVIe siècle. C'est le 9 octobre 1970, jour anniversaire de l'assassinat de son père, qu'il fonde alors le mouvement Armorial, dans lequel, outre la littérature, la musique joue un grand rôle. Comme ici, celle du flûtiste Sébastien Bianu, qui a des airs d'ouverture pour un spectacle de tréteau. Sébastien Biano jouait ici son pipoquinha, le grain de maïs grillé, le pop-corn en quelque sorte. En ce qui concerne la musique classique, le 18 octobre 1970 est créé l'Orchestre Armorial di Camera, l'orchestre armorial de chambre, qui donne son premier concert dans le patio de l'église San Pedro de Recife, cette église qui avait impressionné Albert Camus lors de son voyage. L'orchestre se propose de créer des musiques nordestines de concert en utilisant aussi des instruments de la région qui remontent souvent à l'époque baroque, comme le rebec, la viole et la guitare typique de cette région, la viola, qui est juste un peu plus petite que la guitare que nous connaissons. 2 ans plus tard, l'orchestre commande à Camargo Guarnieri un concerto pour cordes et percussions. Guarnieri, qui n'a jamais oublié son premier voyage au Nord-Est et au début des années 1930, écrit son 3e mouvement en forme de cocu, cette chanson de la région qui accompagne des rondes qui semblent ne jamais devoir s'achever.
Thank you.
le troisième mouvement Fogoso du concerto pour cordes et percussions de Camargo Guarnieri, l'ensemble I Musici de Montréal, dirigé par Yuli Turovski. L'autre compositeur fasciné par le Nord-Est, il a d'ailleurs écrit pour l'orchestre armorial, c'est César Guerra Peichi. En 1971, il compose une fresque symphonique qui nous ramène dans la région marécageuse du Pantanao. Il s'inspire du livre « La retraite de Laguna » écrit au Brésil par le vicomte Alfred de Tonnet, peintre et écrivain, envoyé en 1816 au Brésil par le roi de France, avec pour mission de fonder et de diriger l'école des Beaux-Arts de Rio. Il évoque là une épopée héroïque que le nationalisme tant prôné par la dictature a remis à l'honneur. Il raconte en réalité un épisode mineur de la guerre brésilienne contre le Paraguay qui a eu lieu de 1864 à 1870. Une division de l'armée fait une tentative de diversion en créant un deuxième front dans le Pantanao, près de la frontière du Paraguay, avec un camp retranché dans la fazenda, la ferme de La Laguna. Un an plus tard, la division revient battue à son camp de base. Sur 3000 hommes, seuls 800 ont survécu. C'était un groupe d'hommes disciplinés et patriotes, prêts au départ à toutes les bravoures et qui se sont comportés en héros. Voici comment Guerra Peichi décrit l'arrivée des soldats dans le bivouac de Noyaki, où ils peuvent se reposer et où les blessés peuvent être soignés. La nuit à Noyaki est le seul mouvement calme et poétique de cette fresque, et c'est ici le jeune et dynamique orchestre de l'État de Goiás, au cœur du Brésil, qui l'interprète sous la direction de son directeur musical, Neil Thompson.
Thank you.
Neil Thompson, à la tête de l'orchestre de Goiás dans la nuit calme de la retraite de Laguna de Guerapeixe. Et voilà qu'enfin, en 1972, plusieurs artistes exilés sont autorisés à rentrer au pays. Parmi eux, Gilberto Gil et Caetano Veloso qui quittent Londres pour Bahia. La chanson de Gilberto Gil, écrite à Londres et sortie au Brésil à son arrivée, prend le train de la liberté, celui de l'express Dois, 22-22, qui parcourait la campagne de son enfance. Les compositeurs brésiliens ont décidément aimé chanter les trains, comme ici, à la suite de l'express ou de Gilberto Gil, le chemin de fer d'un tout jeune compositeur d'aujourd'hui, Alexandre Schubert. Oui, j'ai bien dit Schubert.
Começou a circular o expresso 2222 que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá, pra 2001 e 2 e tempo afora, até onde essa estrada do tempo vai dar. Do tempo vai dar, do tempo vai dar, menina, do tempo vai. Segundo quem já andou no expresso, lá pelo ano 2000 fica tal estação final do percurso, vida na terra mãe concebida, de vento, de fogo, de água e sal. Oi, de água e sal, de água e sal. Ô, menina, de água e sal. Começou a circular o expresso 2222 que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que parece o bonde do morro do Corcovado daqui, só que não se pegue, entra e senta e anda. O trilho é feito um brilho que não tem fim. Oi, que não tem fim. Que não tem fim. Ô, menina, que não tem fim. Nunca se chega no Cristo concreto, de matéria ou qualquer coisa real. Depois de 2001 e 2 e tempo afora, o Cristo é como que foi visto subindo ao céu. Oi, subindo ao céu, num véu de nuvem brilhante subindo ao céu. Começou a circular o expresso 2222 que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil que parte direto de Bom Sucesso pra depois.
Tobias Folkman à la tête de l'Orchestre Symphonique National dans Estrada de Ferro, le chemin de fer d'Alexandre Schubert. Gros événement politique en 1972. Le 7 septembre, les cendres de l'empereur Dom Pedro Ier sont rapatriées du Portugal. Pour les 150 ans du cri d'Ipiranga, quand Dom Pedro avait donné face à ses troupes le signal de la lutte pour l'indépendance du Brésil. En 1792, les leaders du mouvement indépendantiste ont été emprisonnés à Ouro Preto avant d'être exécutés. Ils étaient accusés du crime de inconfidência, c'est-à-dire d'infidélité, de trahison envers le roi du Portugal. Parmi eux, le héros et martyr Tiradentes. Deux films sortent cette année-là, D'abord l'officiel, avec même un message du général Medici. Puis celui de Joaquim Pedro de Andrade, qui offre une vision plus juste et sensible, en se basant sur les minutes du procès et en citant à plusieurs reprises des extraits du Romanceiro da Inconfidencia, le Romanceiro de la lutte pour l'indépendance de la poétesse Cecilia Meireles. Quant à la musique, il revient encore à César Guerra Peixi de fêter l'événement dans une autre fresque symphonique écrite sur le schéma des tableaux d'une exposition de Mussorgsky. Il s'agit ici des tableaux du musée de cette Inconfidencia dans la ville de Ouro Preto. La dictature autorise même qu'on exalte le mouvement de libération des Noirs brésiliens au XVIIIe siècle. C'est le dernier mouvement de cette fresque qui évoque les massacres et la destruction du Quilombo de Palmares, ce territoire immense où s'étaient regroupés les esclaves noirs fugitifs. Un tableau intitulé « Les restes d'un royaume noir ». C'était de nouveau Neil Thompson à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Goiás dans les restes d'un royaume noir du Museu da Inconfidencia de Guerra Peixi. Loin de toutes ces célébrations, en 1972, Tom Jobim s'est réfugié dans une cabane à côté de sa maison en construction dans le village de Poço Fundo, non loin de Petrópolis. C'est là qu'il écrit l'une de ses plus belles chansons. Aguas de Março, les pluies du mois de mars, une musique très sophistiquée écrite sur un très beau poème. Et il l'a enregistrée en duo avec Elis Regina, chacun se partageant à l'envi les mots et les vers. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um pouco sozinho. C'est un morceau de bois, une pierre, la fin du chemin, un peu de solitude. Ce sont les pluies du mois de mars qui annoncent l'été et la promesse au fond de ton cœur.
pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo,
é o nó da madeira.
Canga, candé,
é o mate da pereira.
É madeira de vento,
da rimanceira.
É o mistério profundo,
é o queira ou não queira.
É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comida.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira.
É o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira.
É uma ave no céu,
é uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto o desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe,
é um prego,
é uma ponta. É um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão. E a promessa de vida no teu coração.
E après les pluies de mars, voici les étoiles au firmament, avec une musique tournée vers le ciel. Depuis 1969, un compositeur brésilien se fait remarquer avec force en Europe. Il s'appelle José de Almeida Prado. Il est né en 1943 au sein d'une des plus illustres familles de São Paulo. Enfant, il s'amusait à écrire des musiques pour le théâtre de marionnettes de ses frères et sœurs. Il est élève de Camargo Guarnieri à l'âge de 14 ans. Mais il veut élargir son horizon. Et son ami Gilberto Mendes lui prête des partitions d'Olivier Messiaen et de Stockhausen. En 1963, il a son prix de composition au conservatoire de Santos où il commence à enseigner. 6 ans plus tard, grâce à une bourse et au prix qu'il reçoit au Festival de Guanabara, il décide d'aller étudier en Europe. Son objectif, Paris. Avec un détour par Darmstadt, où il assiste aux leçons de Ligeti et de Lucas Foss. À Paris, il étudie avec Olivier Messiaen et Nadia Boulanger jusqu'en 1973. Il a aussi séjourné plusieurs fois à Genève. Ces années-là, Anastelachi qui a créé sa sonate numéro 2 pour piano, puis c'est le Collegium Musicum de la ville qui crée ses saisons, ses estações. En 1976, il est de retour en Suisse, où il assiste à Sion, à la création du concerto pour violon et orchestre que lui a commandé Tibor Varga. Et c'est avec cette musique qui contemple le firmament que nous allons nous quitter.
Thank you.
C'est avec le violoniste Tibor Varga et l'orchestre de son festival à Sion en Suisse qu'on se dit au revoir aujourd'hui. Jusqu'au prochain épisode de Carrefour des Amériques, évidemment, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet, à la technique Marie Le Peintre, attachée de production Nelly Portal, une émission qu'on peut écouter ou réécouter en podcast.
À réécouter sur francemusique.fr.